Donc on va démarrer ce cycle sur l'Antarctique par un volet géologique qui est très certainement de l'ensemble des conférences qui vous seront proposées sera peut-être le moins connu, parce que l'Antarctique est connu pour ses glaces, il est moins connu pour ce qui est sous la glace. Et c'est ce dont je vais vous parler. En fait, je vais vous parler de l'Antarctique invisible, en exagérant un tout petit peu. Pour cela, je vais donc commencer par, ça me paraît important vu le contexte, par les différentes méthodes d'investigation permettant de faire de la géologie du dur quand on ne voit que de la glace, pratiquement. Après cela, eh bien, comme j'ai l'habitude de le faire, je vous parlerai un petit peu du cadre géologique, géodynamique de ce continent. Et puis ensuite, le gros morceau sera de reconstituer l'histoire géologique qui est assez complexe. Je vais essayer de simplifier en faisant référence d'abord à un grand pionnier que vous connaissez tous au moins de nom, Alfred Wegener. Je vous retracerai ensuite très rapidement, à partir de données relativement récentes, comment l'Antarctique a pu dériver depuis l'équateur jusqu'au pôle sud actuellement. Et puis après cela, je passerai un peu plus de temps sur la formation géologique, l'histoire géologique de ce continent. Avec une phase, comme c'est souvent le cas en géologie, une phase d'amalgamation d'un continent, et puis ce continent ensuite va se disloquer pour en arriver à ses situations actuelles. Et après cela, comme je m'intéresse particulièrement aux volcans, je vous parlerai un petit peu des volcans qui se cachent ou qui ne se cachent pas sous la glace, pour enfin poser des questions qui interrogent beaucoup, à savoir la question des ressources minières de ce continent. Alors l'Antarctique, voilà une superbe image de la NASA qui vous montre l'Antarctique, la calotte glaciaire, la banquise gelée autour. Donc pour les glaciologues, c'est un paradis. Pour les géologues, c'est un petit peu un casse-tête. Parce que comme ça, au premier abord, il n'y a pas énormément d'affleurements permettant de reconstituer l'histoire. Voici une autre vision en coupe. Qui vous montre que pour l'essentiel, on a des couches de glace qui peuvent atteindre 4 km. Ça, c'est Chloé Maréchal qui vous en parlera plus en détail. On n'a pas toujours 4 km, on peut en avoir un peu moins, mais le substratum rocheux, il est relativement rare. Donc, ce que je voudrais vous présenter pour commencer, c'est quelles sont les différentes méthodes permettant d'accéder à ce qui est peu visible. Alors, pour cela, il y a différentes méthodes. Il faut d'abord savoir que les roches exposées au niveau de l'Antarctique représentent moins de 0,2% de la surface de l'Antarctique. Ne perdez pas de vue que l'Antarctique, ça fait 28 fois la France, 14 millions de kilomètres carrés. On a essentiellement de la glace et les quelques affleurements que l'on peut avoir, on les a surtout sur le pourtour. Ce qui est représenté ici en bleu et puis updaté en rouge en 2016, c'est très exagéré hein, par rapport à la surface globale. Si je le mettais à l'échelle, vous ne verrez rien. Donc ça représente très peu de choses. Plus précisément, eh bien, vous avez, ça vous l'avez vu sur la première photo, vous avez, je disais que ça affleure essentiellement sur le pourtour, mais on a également une grande chaîne de montagnes, ce qu'on appelle les monts transantarctiques, qui traversent en écharpe l'Antarctique, et qui d'ailleurs, ça va nous intéresser pour la suite, parce que ça sépare deux Antarctiques, à l'est et à l'ouest, dont l'histoire géologique est totalement différente. Donc ces monts transantarctiques, ils affleurent relativement bien. C'est un des secteurs où l'on peut avoir, le long de cette chaîne de montagnes, de beaux affleurements dont je vais essayer de reconstituer l'histoire, là encore. On peut également faire ce que j'appellerais la chasse aux nunataks. Les nunataks, ce sont des petits îlots rocheux qui n'ont pas été recouverts par la calotte glaciaire et que de temps en temps, on peut observer. En voici un exemple ici qui est à l'extrémité sud de la péninsule antarctique. À partir de ces quelques affleurements, on peut dresser des cartes géologiques. Mais les cartes géologiques de l'Antarctique, c'est relativement simple. On a essentiellement de la glace. Et puis, de temps en temps, eh bien, quelques nunes attaquent, quelques îlots. Là, je vous ai montré un exemple. Ça, c'est une carte géologique. Et vous voyez que les affleurements, ben, il faut les chercher. Cela n'a pas empêché les Américains de l'USGS, qui est le service de cartographie, entre autres, hein, des États-Unis, de dresser 14 cartes géologiques de reconnaissance au 250 millième. Cela n'a évidemment rien à voir avec les cartes géologiques que vous connaissez de la France ou d'ailleurs. Ce qui affleure, c'est essentiellement de l'Atlas. Mais on fait ce que l'on peut avec ce que l'on a. Autre approche, il y a quand même quelques secteurs, notamment au sud de l'Antarctique. Alors, je vais reparler dans un moment de cette notion de sud ou nord. Hein. Cela dépend évidemment beaucoup de l'interlocuteur. Ce que j'appelle le sud en tant qu'Européen, eh bien, c'est cette partie-là. On verra que pour un Australien, le sud est de l'autre côté, évidemment. Donc, vous avez un secteur près de la mer de Ross, ici, qu'on appelle les vallées sèches de McMurdo. McMurdo, il y a une grande base américaine, mais il y a surtout des secteurs qui ne sont pas ennoyés de glace et où là, vous avez de bons affleurements. Je vous en montre un exemple. Ici, voilà une vallée sèche. Donc là, ça affleure. Tout n'est pas en place, hein, mais c'est quand même bien d'avoir un bloc comme ça, même s'il n'est pas en place, parce qu'en Antarctique, ça ne vient pas de très, très loin. Donc ça, ça permet, et puis vous avez de beaux affleurements qui sont en place. Ça, ce sont des situations tout à fait privilégiées qui permettent d'avoir une bonne idée, au moins localement, de la géologie. Et puis, vous avez, bien sûr, les volcans. Alors, les volcans, il y en a, l'essentiel sont sous la glace. Je vous montrerai comment on a pu les identifier. Mais vous avez quand même quelques volcans qui émergent, à commencer par l'Erebus, hein, le plus connu, le plus célèbre. Et même s'il est recouvert de neige, ce volcan régulièrement éjecte des matériaux qui vont être des témoins de la croûte partiellement, mais aussi du manteau sous l'Antarctique. Et ça, c'est extrêmement précieux. Les volcans sont des échantillonneurs naturels de la plaque sous-jacente. C'est valable pour le massif central, c'est valable pour l'Antarctique. Donc quand on a la chance d'avoir un volcan en activité de surcroît, même si c'est en Antarctique, il ne faut pas laisser passer cette chance. Et puis, je ne peux pas parler d'Antarctique sans mentionner ce qui ne nous informe absolument en rien sur l'histoire de l'Antarctique, bien sûr, mais ce qui, géologiquement, est très important, c'est la chasse aux météorites. L'Antarctique, c'est certainement le secteur le plus favorable pour rechercher des météorites. Pour une raison simple, c'est que vous avez une calotte glaciaire. Et quand une météorite tombe sur une calotte glaciaire, eh bien, elle y reste, parce que contrairement à ce qu'on pourrait penser, en Antarctique, il ne neige pas beaucoup. Donc cela permet d'avoir une excellente préservation des météorites pendant assez longtemps. En plus, le contraste avec la glace facilite les choses. Et en Antarctique, statistiquement, on observe à peu près 0,1%. Donc une pierre volante sur 1000 est une météorite. C'est extraordinaire, statistiquement parlant. Aucun autre secteur ne permet d'avoir une telle richesse en météorites. Voilà, ce n'est pas sur l'Antarctique, évidemment, que ça va nous apporter des informations. Et puis, vous avez également une autre méthode d'investigation qui sont les programmes de forage. Heureusement, on est capable, depuis pas mal de décennies, de forer. Et en Antarctique, vous avez eu deux programmes de forages qui ont été effectués. Alors, il s'agit de forages internationaux. Un premier programme qui s'appelait le programme DSDP, Deep Sea Drilling Project, avec un navire océanographique qui était le Glomar Challenger, qui a fait des forages en mer de Ross, donc celle qui est au sud pour nous. Je parle ici de forage en mer. Hein. Et puis, vous avez un deuxième forage qui a été fait le premier dans les années 72-73. Un deuxième forage dans le cadre d'un programme de forage international plus récent, ODP, Ocean Ring Project, qui, en 1987, à partir d'un nouveau navire océanographique, le Joyous Resolution, a foré cette fois en mer de Weddell, celle qui est au nord de l'Antarctique. Donc ça, c'est une chance, évidemment, d'avoir une idée du substratum sous ces mers. Vous avez également des forages qui ont été faits dans ce que l'on appelle les vallées sèches, notamment dans la baie de McMurdo. Et là, je vous en donne deux exemples. Vous avez un forage ici qui a été fait complètement sur de la roche solide. Un autre forage qui a été effectué dans la baie de McMurdo et qui vous permet de constater que, par exemple, au niveau de ça, c'est une campagne de plusieurs forages qui vous montre que, eh bien, derrière à peu près en dessous de 1000 mètres environ de glace et d'eau, on a pu récolter quasiment 1300 mètres de roche. Pour l'Antarctique, c'est une bénédiction, évidemment. Donc ces forages sont également très importants. Voilà, ça c'est ce qui va permettre d'accéder directement aux cailloux. Et les géologues aiment bien avoir du concret à se mettre sous la main. Évidemment, on ne peut pas se contenter uniquement de cela. Et pour avoir davantage d'informations, il y a des techniques qui ont été mises au point, qui sont aéroportées, mais qui permettent d'avoir une idée, non pas de la composition des roches, bien sûr, mais une idée de la topographie, des reliefs et des structures géologiques sous la calotte glaciaire. Et je vous montre ici, par exemple, un programme qui a été effectué conjointement entre la NASA et puis l'Université du Texas, où à partir d'une base, je ne sais plus si elle était à Ushuaia ou au Chili, à Puerto Natales peut-être, je ne sais plus, vous avez toute une série de transects aéroportés qui ont été faits. Et avec des techniques d'aéroporté radar, cela permet de décaper, entre guillemets, la calotte glaciaire pour voir ce qu'il y a en dessous. Vous avez également un autre programme qui a été effectué par un des grands centres de recherche en Antarctique, le British Antarctic Survey, dans des années relativement récentes, il y a moins de 10 ans, où là, vous pouvez voir que c'est le projet BEDMAP. Il y a eu BEDMAP 1, puis BEDMAP 2, permettant justement d'accéder à ce que les anglo-saxons appellent le bedrock, c'est-à-dire la roche dure sous la calotte glaciaire. Et avec ce petit engin là, aéroporté, moyennant toute une série de va-et-vient, de zigzags, eh bien, cela permet d'aider à la cartographie en termes de structure sous la calotte glaciaire. Et le résultat de ceci, eh bien, il est assez saisissant. Le voici. Ça, c'est le point de départ. C'est actuellement ce qui est de la calotte glaciaire. Vous voyez sur cette vue, que je trouve très belle, que vous avez quand même quelques affleurements au niveau des monts transantarctiques. Là, vous avez quelques gros nunataks qui émergent de la calotte. Mais si, grâce à tous ces transects aéroportés qui ont été effectués, on fait abstraction de cette couverture glaciaire, qui, je vous le rappelle, peut atteindre 4 km d'épaisseur, eh bien, voilà ce que cela donne. Vous avez, c'est extraordinaire, vous avez toute la géologie qui apparaît sous la calotte, avec, bien sûr, ce qui émerge, la chaîne transantarctique, mais quelque chose qui est tout à fait remarquable et que l'on ne voit absolument pas sans cette technique, c'est la présence d'un immense rift, c'est-à-dire un fossé d'effondrement entre cette chaîne et entre ces reliefs-là, ce qu'on appelle le rift ouest antarctique, qui est une structure majeure, totalement invisible actuellement, en Antarctique. Et là, maintenant, je vais vous montrer une autre vision. Ça, ne perdez pas de vue, c'est ce que j'ai souligné ici, que ce résultat, c'est quand même la conséquence de 25 millions de mesures. Ça vous montre une petite idée du travail en amont de cette carte qui peut paraître banale comme ça, mais que je trouve extraordinaire. Alors, une autre vision de ce que serait ou sera peut-être l'Antarctique lorsque la glace aura disparu ou si elle disparaissait complètement, eh bien, l'Antarctique deviendrait une mosaïque d'îles. Sur cette vue, eh bien, tout ce qui est en bleu, vous l'avez compris, serait ou sera de l'océan. Et tout ce qui est en jaune, ou a fortiori marron, si les relèves sont plus importants, correspondra aux parties terrestres. Donc on sera évidemment assez loin de la physionomie actuelle. Alors, pour faire toutes ces recherches, vous avez bien sûr des organismes nationaux qui, dans bien des cas, travaillent conjointement les uns avec les autres, mais pas uniquement. Alors, ces organismes nationaux, je ne vais pas tous les passer en vue. Actuellement, vous avez une trentaine de pays qui font de la science en Antarctique. Donc, je vais simplement vous en citer quatre. Sans vouloir être chauvin, je vais commencer par l'IPEV, l'Institut Paul-Émile Victor, qui est donc l'institut français spécialisé sur l'étude de l'Arctique et de l'Antarctique, pas uniquement en géologie, également en biologie, en géophysique, pour toute une série de disciplines. Alors l'IPEV est bien concerné par l'Antarctique, mais également par les îles australes. Tout ce qui est Crozet, Amsterdam, Saint-Paul, Kerguelen, qui sont des possessions françaises, est évidemment directement sous le contrôle de l'IPEV, qui a deux navires, le Marion Dufresne, que vous connaissez probablement de nom, et puis un deuxième navire, l'Astrolabe. Et vous avez, sur l'Antarctique proprement dit, vous avez deux bases françaises, enfin une base et demie. Vous avez la base du Mont d'Urville, qui est située en Terre Adélie, ici, qui est la plus connue. Et puis vous avez une base plus récente, qui est la base Concordia, un peu plus à l'intérieur, qui est partagée entre la France et l'Italie. Deuxième organisme de recherche extrêmement célèbre et performant pour ce qui est de l'Antarctique, c'est le British Antarctic Survey. Comme son nom l'indique, eh bien, c'est l'équivalent anglais de l'IPEV. Troisième exemple, et il est allemand, et étant allemand, évidemment, il ne pouvait pas faire moins que de rendre hommage à Wegener. Il s'agit de l'Alfred Wegener Institute. Et puis vous avez bien sûr, je l'ai déjà mentionné, l'USGS, hein, qui est l'organisme américain qui est également bien implanté en Antarctique. Donc ces organismes travaillent de concert. Il n'y a pas que ces organismes. Vous avez, au-delà de ces organismes, en plus de ces organismes, toute une série de bases, des bases temporaires ou des bases permanentes. Et là, cette petite carte vous montre toutes les bases. Elle n'est plus totalement à jour. Toutes les bases actuelles en Antarctique. Donc, vous pouvez constater que, ce n'est pas une surprise, ces bases sont essentiellement localisées sur le pourtour de la côte, mais vous avez également des bases à l'intérieur. La base américaine d'Amundsen Scott, par exemple, est quasiment sur le pôle sud, donc complètement à l'intérieur. Vous avez actuellement 52 bases. Il y en a une 53e et peut-être un peu plus qui sont en cours d'implantation, qui pose d'ailleurs des problèmes parce qu'actuellement les Chinois sont en train d'implanter une base ici en mer de Ross sans qu'il y ait forcément un accord de toute la communauté. Ça, c'est un problème qu'on pourra évoquer. Puisque je parle des Chinois, alors les Chinois ils s'y sont mis très tard, mais ils rattrapent leur retard. Hein, la première base chinoise en Antarctique remonte à 1985. Ça fait bien longtemps que les Anglais et les Français avaient déjà une base. Mais en commençant en 1985, les Chinois en sont implantés actuellement leur cinquième base. Et vous voyez que les bases chinoises, ce sont ces petits rectangles rouges. Vous en avez une là, vous en avez une là, vous en avez une là. Ils sont en train de progresser de l'extérieur vers l'intérieur. Bref, ce sont les Chinois. Voilà. Donc de plus en plus de bases permanentes, une trentaine de pays qui participent. Là, je vous ai mis la carte de l'ensemble des pays qui sont implantés en Antarctique. Vous voyez que ça fait du monde. Deux exemples de ces bases, celle qui est au pôle sud, la base Amundsen Scott américaine, et puis la base française du Mont d'Urville, hein, en Terre Adélie, qui elle est sur la côte, comme vous pouvez le voir. Ça, ce sont deux exemples en passant. Donc vous avez des organismes de recherche nationaux. Vous avez des bases qui appartiennent à différents pays. Actuellement, n'importe quel pays est, sur le papier est en droit d'implanter une base en Antarctique. Et puis, vous avez également un programme international de recherche, le Scientific Committee on Antarctic Research, avec 43 pays membres, qui a lancé un certain nombre de programmes en physique, en biologie, mais aussi en géologie. Par exemple, un programme sur la réponse justement du bedrock de la Terre solide à l'évolution de l'Atlas en termes de glaciation, déglaciation. Il y a tout un programme qui est dévolu au permafrost, hein, au pergélisol, un programme sur le volcanisme antarctique, un programme qui essaye de faire le lien entre la géophysique et la géologie, un programme, et c'est important ça, qui s'intéresse au patrimoine géologique de l'Antarctique, et un programme également de cartographie que j'ai déjà évoqué. Donc des programmes internationaux qui sont extrêmement actifs et dynamiques, bien sûr internationaux. Ça, c'était toutes les méthodes d'approche. Donc, vous voyez que sur l'Antarctique, ça grouille, ça pullule. Il y a énormément de pays, de structures s'intéressent à l'Antarctique d'un simple point de vue géologique. Voyons maintenant ce qu'il en est du cadre géologique et géodynamique de ce continent. Alors, si vous regardez cette carte qui doit vous être familière, pas spécifiquement pour l'Antarctique, mais dans sa globalité, hein, des différents continents, des océans, vous voyez tout de suite que l'Antarctique est essentiellement ceinturée de dorsales océaniques. vous avez toute une série de dorsales océaniques, atlantiques, indiennes et pacifiques, qui ceinturent l'Antarctique, sauf au nord. Alors au nord, vous avez un secteur, au nord, entre la péninsule antarctique et la Terre de Feu, vous avez un secteur beaucoup plus complexe, sur lequel je vais m'apesantir un tout petit peu. Tout d'abord, je vous signale qu'actuellement, je dis bien actuellement, parce qu'au cours de son histoire, il en a été différemment, mais actuellement, la plaque antarctique bouge très peu. Là, vous avez une carte de la cinématique, c'est-à-dire des mouvements de la plaque. Cette longueur de flèche correspond à un mouvement de 20 mm, 2 cm par an. Et bien, vous voyez qu'en Antarctique, on ne l'atteint jamais. Donc l'Antarctique, en gros, ça a tendance à se déplacer vers le nord, mais environ d'un centimètre par an. C'est une plaque qui, actuellement, est relativement stationnaire. Ça bouge autour, mais l'Antarctique lui-même bouge relativement peu. Alors, venons-en maintenant à ce secteur qui est au nord de l'Antarctique. Pour vous situer, là, vous avez la Terre de Feu. Ici, vous avez l'extrémité nord de la péninsule antarctique. Et là, vous avez ce qu'on appelle la mer de Scotia. Et vous voyez que cette mer de Scotia est entourée de zones extrêmement sismiques. Tous ces ronds rouges, bleus ou jaunes sont des séismes. Ces séismes sont essentiellement rouges au nord, au sud et à l'ouest, c'est-à-dire des séismes peu profonds, hein, des foyers de moins de 35 km, alors que à l'est, ici, vous avez des séismes qui s'enfoncent de plus en plus de l'est vers l'ouest, jusqu'à des profondeurs de foyers de 350 km. Donc, vous avez évidemment reconnu qu'à ce niveau-là, vous avez une zone de subduction. Vous avez l'Atlantique Sud, la plaque Atlantique Sud, qui est en train de subducter sous cette plaque-là, qui, on va le voir, est en fait constituée de deux plaques. C'est tout petit, mais c'est assez complexe. C'est souvent le cas. Les petites plaques, hein, sur notre planète sont souvent beaucoup plus complexes que les grandes plaques. Et c'est la complexité qui a créé des micro-plaques, justement. Donc là, vous avez une zone de subduction. Qui dit zone de subduction dit évidemment séisme, ça vous le voyez, mais il dit également présence d'arcs volcaniques. Et ces îles volcaniques, elles sont peu connues, mais elles sont très actives. Il s'agit des îles Sandwich. Là, vous avez la Géorgie du Sud, qui ne fait pas partie de cet arc, hein, qui était un arc plus ancien. Donc une sismicité qui est importante autour de la mer de Scotia. Et si l'on regarde un peu plus en détail ce qu'il en est, vous avez ici donc la zone de subduction d'est en ouest. Ici, au nord et au sud, vous avez deux zones que l'on qualifie de failles transformantes, c'est-à-dire des failles de part et d'autre desquelles vous allez avoir un coulissement. Ici, elle est sénestre, hein, c'est-à-dire que ce compartiment va vers la gauche, le compartiment en dessous va vers la droite. C'est l'inverse ici. Et là, vous avez une autre zone transformante, la zone de fracture de Shackleton, en honneur ce qui est peut-être le plus célèbre explorateur de l'Antarctique. Et si vous regardez bien l'intérieur de cette mer de Scotia, vous voyez, et c'est là, ça traduit bien sa complexité, c'est qu'on est coincé entre deux zones transformantes, une zone de subduction, mais vous avez une dorsale océanique. Là, ça s'ouvre. Et en fait, cette dorsale océanique sépare deux cryptoplaques, si je peux dire, au milieu de la microplaque. Vous avez la plaque Sandwich, toute petite, coincé entre la zone de subduction des Sandwich et cette dorsale, et puis ici la plaque de Scotia, donc deux plaques différentes. Et là encore, vous avez une zone de dorsale séparée par des petites failles transformantes. Donc je ne vais pas entrer davantage dans le détail de cette géométrie, mais de cette dynamique, mais c'est quelque chose de très complexe à ce niveau-là. Et cette plaque de Scotia est très importante parce qu'on va voir que historiquement, c'est elle qui a finalisé l'isolement de l'Antarctique. Et isolement de l'Antarctique au pôle sud, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire englacement. Et c'est pour cela que Chloé Maréchal, dans quelques semaines, vous parlera de la glace qui surmonte tout ce dont je vais parler aujourd'hui. Alors, l'histoire géologique. Venons-en maintenant donc à l'histoire, à la construction de l'Antarctique. C'est une histoire qui est longue et complexe. Je vais essayer de la simplifier. Là, je vous ai mis un petit chronogramme de l'histoire de la Terre, hein, depuis 4,56 milliards jusqu'à l'actuel, avec quelques repères que vous pourrez regarder à tête reposée. Ce n'est pas le but de mon intervention. Mais les roches de l'Antarctique, dans cette histoire globale de la Terre, eh bien, recouvre quasiment toute l'histoire, puisque les plus vieilles roches découvertes en Antarctique, du moins les plus gros, les plus vieux minéraux, sont à 3 milliards 9. Et les plus récents, ben les plus récents, ils s'en forment tous les jours à travers, par exemple, les éruptions de l'Erebus. Voilà, donc une histoire qui va être extrêmement longue et complexe, que je vais essayer de vous résumer. Tout d'abord, en rendant un hommage à celui qui, probablement le premier, s'est vraiment intéressé à la géologie de l'Antarctique, qui est Alfred Wegener. Alors, Wegener était un astronome, était un climatologue, mais vous connaissez tous sa théorie des translations continentales, hein, qu'on a traduit en dérive des continents. Alors, qu'a pu montrer Wegener concernant l'Antarctique ? Je vais aller à l'essentiel. Il a, parce que ça, je pense que ce sont des choses dont vous avez déjà entendu parler. J'en ai parlé à certains d'entre vous lorsqu'on a parlé de la dérive des continents et de la tectonique des plaques, il n'y a pas si longtemps que ça. Première observation et interprétation judicieuse de Wegener, c'est sa théorie des continuités paléontologiques. Vous avez un certain nombre d'organismes datés notamment du Permo-Trias, autour de 250 millions d'années. Et Wegener a observé que ces organismes se trouvent aussi bien en Amérique du Sud qu'en Afrique australe, qu'en Inde, qu'en Australie et qu'en Antarctique. Et parmi ces organismes, vous en avez notamment deux. Un végétal, le Glossopteris, cet arbre, qu'on n'a pas retrouvé entier évidemment, mais on a retrouvé du feuillage. Et ce reptile absolument abominable, hein, qui s'appelle le Lystrosaurus, qui n'est pas très... Son portrait n'est pas très, très attrayant, mais il a le mérite d'exister. Et Wegener s'est aperçu qu'en rassemblant les continents en position antérieure à ce qui va devenir l'ouverture de la Pangée, eh bien... Il observe une continuité paléontologique de ces différentes espèces, notamment une très belle continuité paléontologique de ce Glossopteris, qui a complètement disparu depuis, que l'on retrouve aussi bien en Amérique du Sud, en Afrique, en Inde, en Australie qu'en Antarctique. Donc ça, c'est absolument remarquable. Donc, première observation très importante de Wegener, ces continuités paléontologiques. Deuxième observation, ce sont des traces de glaciation, également permo-carbonifère, des glaciations toujours autour de 250 millions d'années, où là encore, Wegener s'est rendu compte que des témoins glaciaires, ce ne sont pas les glaces, vous l'avez compris, il n'a rien à voir évidemment avec les glaces actuelles, qui elles ont moins de 30 millions d'années, mais il y a eu d'autres glaciations bien antérieurement dans l'histoire de l'Atlantique, dont on retrouve des témoins à travers des sédiments glaciaires, ce que les géologues appellent des tilites. Voici un exemple de tilite, ce sont des brèches qui peuvent être assez grossières comme ici ou beaucoup plus fines, qui sont des sédiments glaciaires. Vous avez également, ça vous le connaissez mieux parce qu'on en a des quantités dans les Alpes, des stries glaciaires, qui vont donner des directions d'écoulement et même dans certains cas des critères de sens d'écoulement avec des lunules d'abrasion qui permettent de savoir dans quel sens le glacier, en se retirant, a raclé la roche sous-jacente. Okay ? Et bien là encore, Wegener, en rassemblant ces continents en un supercontinent Pangé, a pu montrer que tous ces témoins, tous ces vieux témoins de plus de 250 millions d'années de sédiments glaciaires, eh bien, se regroupent pour former une immense calotte glaciaire de cette époque. Et il a pu montrer également, en analysant les indicateurs de sens d'écoulement, que l'on arrive statistiquement à montrer que l'écoulement se fait de façon centrifuge. Ce qui n'est pas une surprise, quand vous avez une calotte glaciaire, eh bien, la glace elle va s'écouler à partir d'un sommet qui est plus important au centre, et l'écoulement va se faire de façon radiale du centre vers la périphérie. Voilà ce que Wegener a pu nous apporter comme information sur l'histoire de l'Antarctique. Évidemment, c'est très partiel par rapport à tout ce qui sera découvert par la suite, mais c'est quand même important à prendre en compte. Alors, je vais maintenant vous montrer à travers quelques images des résultats plus récents d'un vaste projet qui s'appelle Paléomap, d'un Américain, Christopher Scottes, à ne pas confondre avec le cinéaste, hein, ce n'est pas Scorsese, c'est Scottese, mais il a reconstitué un film extraordinaire. Alors, je ne vais pas le montrer en animé parce que ça passe trop vite et je préfère vous montrer des instantanés pour vous montrer un petit peu, pour vous montrer surtout comment l'Antarctique se positionne au cours des temps géologiques. Alors, je ne vais pas remonter à 3,9 milliards parce que Scottese ne l'a pas fait. Lui, il a démarré simplement à 650 millions d'années, ce qu'on appelle le protérozoïque terminal. Alors, il y a 650 millions d'années, ça c'est très important à prendre en compte, l'Antarctique était en plein sur l'équateur. Sur l'équateur. Vous voyez que la dérive de l'Antarctique au cours des temps géologiques a été considérable. Et quand je vous disais tout à l'heure qu'actuellement la plaque ne bouge pas, au cours des temps géologiques, elle a énormément bougé. Donc, il y a 650 millions d'années, l'Antarctique était sur l'équateur. Voici, il y a 450 millions d'années, l'Antarctique était toujours sur l'équateur. Il est à ce niveau-là. Ensuite, il y a 350 millions d'années, donc 100 millions d'années plus tard, l'Antarctique était au niveau des tropiques. Il avait complètement quitté l'équateur, il était au niveau des tropiques, mais pas encore au niveau du pôle sud. Il y a 240 millions d'années, là, on est en plein dans le Trias, eh bien, l'Antarctique est sur le cercle polaire. On s'approche du pôle sud. Et c'est à ce moment-là que la Pangée, le dernier, je dis bien le dernier parce qu'il y en a d'autres avant, le dernier supercontinent de l'histoire de notre planète, a été rassemblé. Eh bien, l'Antarctique, et ça, je vais essayer de vous le remontrer plus en détail, faisait partie de cette Pangée. Ça, c'était il y a 240 millions d'années. Il y a 150 millions d'années, eh bien, l'Antarctique est quasiment vers le pôle sud, mais pas encore complètement. Et ça, c'est une époque, 150 millions d'années, on est en plein dans le Jurassique. Pensez à Jurassic Park, hein, c'est l'époque des dinosaures. Eh bien, à ce moment-là, vous voyez ici un domaine océanique qui commence à s'ouvrir entre l'Antarctique et l'Afrique. C'est ce sur quoi je vais revenir dans un moment. Là, je vous le montre simplement à travers quelques cartes. Il y a 100 millions d'années, un petit peu moins. Là, c'est la séparation de l'Inde de l'Antarctique. Vous voyez que le domaine océanique entre l'Afrique et l'Antarctique est complètement ouvert. L'Inde, à son tour, s'est séparée de l'Antarctique, mais à ce moment-là, l'Australie est encore collée à l'Antarctique. Si, par contre, je fais un bond de 40 millions d'années, eh bien, à ce moment-là, vous observez que l'Australie, à son tour, se détache de l'Antarctique. De même qu'un tout petit peu plus tard, on ne le voit pas ici, la Nouvelle-Zélande. Et c'est à ce moment-là, très important, notamment pour la conférence qui suivra de Chloé Maréchal, c'est à ce moment-là que commence à s'ouvrir ce qu'on appelle le passage de Drake. Alors, je ne sais pas si certains d'entre vous ont fait une croisière en péninsule antarctique. En général, on part d'Ushuaïa et pour arriver sur la péninsule antarctique, il faut traverser ce fameux passage de Drake qui est connu pour ses eaux généralement agitées. Et ben, ce passage de Drake a commencé à s'ouvrir à ce moment-là. Et ça, c'est ce qui va progressivement aboutir à l'isolement de l'Antarctique à l'axe du pôle sud et donc à son englacement. Il y a 14 millions d'années, eh bien, les glaces se sont bien installées. L'Antarctique est installé, bien installé au pôle sud. Les glaces se mettent en place. Il est complètement isolé. Le passage de Drake est complètement ouvert. C'est donc le début de l'isolement. Voilà, ça, c'était les petites cartes que Scottes s'est amusé à reconstituer. Ça a été le fruit de plusieurs années de travail et c'est un très, très beau résultat. Voyons maintenant ce que l'on peut dire un peu plus précisément de la construction géologique de l'Antarctique. Alors là, quelques repères importants. Il va falloir faire preuve d'un petit peu d'attention. Je vais vous expliquer pourquoi. D'abord, l'Antarctique, c'est actuellement un continent unique, bien sûr, mais je vais vous montrer que, géologiquement parlant, vous avez l'Antarctique Est, qui est ce gros ensemble, et l'Antarctique Occidental, dont l'histoire est complètement différente. Entre les deux, vous avez les monts transantarctiques, et puis là, vous retrouvez la mer de Weddell et puis la mer de Ross. OK ? Alors, il va falloir faire preuve d'un petit peu d'attention parce que les différentes études qui ont été faites permettant de reconstituer l'histoire de ce continent, ont été faites en partie par des Européens, Donc quand un Européen travaille sur l'Antarctique, eh bien, il le représente comme cela, mais ont été faites également en grande partie par des Australiens ou des Néo-Zélandais. Et quand les Australiens ou les Néo-Zélandais travaillent, représentent l'Antarctique, eh bien, ils lui mettent la péninsule Antarctique en bas pour nous. Donc il va falloir, dans les différentes cartes que je vais vous montrer successives, se livrer un petit jeu intellectuel, hein, de façon à ne pas vous perdre entre le nord et le sud. Il est évident que tout le monde a raison, hein, quand l'Antarctique est centrée sur le pôle sud ici, eh ben, toutes les côtes sont au nord. Mais chacun voit le nord à sa porte, entre guillemets. Donc pour essayer de vous aider, dans tous les schémas qui vont suivre, je vous ai mis une flèche rouge, comme ceci, qui vous indique la position de la péninsule antarctique. Le repère géographique le plus commode en Antarctique, c'est bien sûr la péninsule. C'est là où vont les croisiéristes, hein, pour ceux qui ont pu aller en Antarctique. Donc c'est un bon repère. Alors essayons de voir un petit peu ce qui s'est passé. Et avant de reconstituer l'histoire, je vais vous montrer les différences énormes qu'il existe entre l'Est et l'Ouest. Est et Ouest pour un Européen. Première différence, hein, vous avez un gros contraste géophysique. Et lorsque l'on fait de la tomographie sismique sur l'Antarctique, la tomographie, c'est ce qui vous permet de visualiser les atténuations de vitesse des ondes sismiques, et bien vous voyez que ces ondes sismiques sont beaucoup plus atténuées à l'ouest qu'à l'est. Et il y a une limite extrêmement nette. Là, c'est du bleu. Ça veut dire que l'on a une vieille lithosphère, de vieilles plaques, une lithosphère, une plaque très épaisse, alors que l'histoire de la partie occidentale en rouge sera beaucoup plus récente, la lithosphère se sera moins refroidie. On retrouve la même information, mais enfin, du moins une information qui va corroborer la première, si l'on regarde l'épaisseur de la plaque, l'épaisseur de la lithosphère. La lithosphère, c'est ce qui constitue croûte plus partie supérieure du manteau, la plaque rigide qui va se déplacer, qui vont se déplacer les unes par rapport aux autres. Mais vous voyez que ces plaques, ces lithosphères, sont très épaisses à l'est, jusqu'à près de 300 km d'épaisseur. Ça traduit de très vieux socles, de très vieux continents. Tandis que la partie ouest, eh bien, vous avez des épaisseurs qui sont nettement moindres. Là encore, un contraste saisissant entre les deux. On va retrouver ce même genre d'information en regardant le flux de chaleur. Le flux de chaleur, la quantité de chaleur qui est dégagée en surface. Et bien là encore, vous avez un contraste saisissant entre l'est, flux de chaleur très faible, moins de 50 milliwatts au mètre carré, alors qu'à l'ouest, vous avez un flux de chaleur beaucoup plus élevé qui peut atteindre les 150 milliwatts. Pour vous donner un ordre de comparaison, le flux de chaleur en France, il varie selon cette fourchette-là, en gros de 60 à 130 milliwatts. En France, il est variable, hein, il y a des secteurs où le flux de chaleur est plus important que d'autres. Eh bien, vous voyez que l'Antarctique, on a, dans toute la partie est, on a un flux de chaleur qui est inférieur à ce que l'on a en France. Ça traduit le fait, là encore, que c'est un très vieux continent, de très vieux cratons, ce que les géologues appellent des cratons. Alors venons-en plus précisément maintenant à cette construction justement de l'Est et de l'Ouest. Alors je vais essayer de vous montrer, c'est pas très simple parce que ça c'est ce que les géologues ont essayé de reconstituer au cours des décennies en s'aidant du peu d'informations disparates qu'ils ont pu de l'année. Mais je vais essayer de vous montrer, en simplifiant les choses bien sûr, que à l'Est on a la formation d'un vieux craton, ce qu'on appelle le craton Est Antarctique, qui va être concomitant de la formation du Gondwana, et cette histoire va s'échelonner entre quasiment 4 milliards d'années et 500 millions d'années. Et je vais vous montrer que ce que l'on a actuellement dans ce craton est antarctique, ce sont des morceaux de l'Antarctique originel auxquels sont venus se rajouter également des morceaux de la vieille Afrique, des morceaux de la vieille Inde et des morceaux de la vieille Australie. Et tout ceci s'est amalgamé pour former la partie est il y a plus de 500 millions d'années. Tandis que à l'ouest, eh bien à l'ouest, vous avez une accrétion contre la partie est qui va être beaucoup plus récente, qui a commencé il y a à peu près 500 millions d'années, qui se poursuit encore en partie, mais de façon assez minime, actuellement. Et l'accrétion de tout ce qui va se rajouter, qui n'existait pas donc il y a 500 millions d'années, eh bien, tout ceci est directement associé à la dislocation du Gondwana. Donc l'histoire de l'Antarctique, c'est très intéressant parce que c'est un raccourci de la tectonique des plaques de notre planète au cours des temps géologiques. Vous avez d'abord l'amalgamation d'un continent, Antarctique, qui sera une partie du Gondwana, un supercontinent, et puis ensuite la dislocation de ce continent, Antarctique et du Gondwana, qui va être accompagné par le rajout, le collage, l'accrétion d'un certain nombre d'îles qui vont former tout l'Antarctique ouest. C'est un peu compliqué. Première étape, il y a à peu près 1500, 1700 millions d'années, donc 1,7 milliard. Eh bien, vous avez, et qui affleure encore actuellement de façon extrêmement ténue, bien sûr, vous avez un noyau archéen. L'archéen, c'est la période, une des périodes les plus anciennes de l'histoire de notre planète, qui a plus de 2,5 milliards. En âge, eh bien, vous avez actuellement ici et là, ce qui fait partie de ce qui deviendra plus tard l'Antarctique, des témoins qui préexistent encore. Ça, c'est une carte australienne avec la péninsule antarctique vers le bas. Progression dans le temps, à la fin de ce qu'on appelle le mésoprotérozoïque. Le protérozoïque, c'est la dernière période du précambrien. Avec le mésos qui est au milieu, en gros 1 milliard d'années, pour faire simple, eh bien, il y a 1 milliard d'années, est venu se coller à ce craton que je vous ai montré précédemment, un autre craton qu'on appelle le craton de Crone. Il est venu se coller, c'est-à-dire que l'on avait à cette époque, eh bien, on avait déjà de la tectonique des plaques, on avait ce continent qui se rapprochait de celui-ci, cela a formé une chaîne de montagnes, qui est l'orogène de Pinjama, qui bien sûr depuis a été complètement rabotée et de toute façon recouverte par la glace, et puis ce vieux craton-là est venu se coller au précédent. Donc là, on commence à faire de l'accrétion continentale, de la croissance du continent antarctique. Ça, c'était il y a 1 milliard d'années. Il y a 550 millions d'années, eh bien, à ce moment-là, on avait d'autres cratons venant d'ailleurs qui, toujours par le biais de la tectonique des plaques, commençaient à se rapprocher de l'Antarctique, à savoir un craton indien et un craton sud-africain, mais qui, à l'époque, étaient encore séparés de l'Antarctique par des mers. Et je vous ai mis à chaque fois les étoiles rouges sur ce qui va devenir, au final, partie intégrante de l'Antarctique Est. C'est un petit peu compliqué, je suis désolé, mais ce n'est pas moi qui l'ai inventé. Donc j'essaye de simplifier les choses. Ça, c'est encore une carte de l'hémisphère sud, avec la péninsule antarctique vers le bas. Donc approche des cratons sud-africains et indiens. Et à la fin du Cambrien, il y a 500 millions d'années, eh bien là, on assiste au collage complet des vieux cratons africains et indiens, et puis australiens qui ont été les premiers, je ne suis pas sûr d'avoir pensé à vous le signaler, les premiers à s'accoler à l'Antarctique, qui se rapprochent et qui se collent les uns aux autres pour former non seulement l'Antarctique Est, mais également le Gondwana. Parce que tout ceci, évidemment, va participer au collage de l'Amérique du Sud, de l'Afrique du Sud, de l'Antarctique, de l'Inde et de l'Australie. Donc là, on est en position de collage. Et à ce moment-là, l'Antarctique, c'était uniquement la partie est. La partie ouest n'existait pas. À l'ouest, on avait un domaine océanique. Et à certaines distances, on avait des îles qui, par la suite, vont venir, à leur tour, mais plus tard, se coller à l'Antarctique est pour fabriquer l'Antarctique ouest. Ça, c'est la situation il y a 500 millions d'années. Et puis ensuite, de la fin du Cambrien, 500 millions d'années, jusqu'au Carbonifère, fin du Carbonifère, 300 millions d'années. Pendant 200 millions d'années, que va-t-il se produire ? Eh bien, c'est le début de l'accrétion de toutes les îles du Pacifique qui vont venir se coller à l'Antarctique Est. Là, on a changé de sens. La péninsule antarctique est vers le bas. Donc là, vous avez le Pacifique. Dans ce Pacifique, vous avez toute une série d'îles. Le Pacifique est venu subducter sous l'Antarctique Est, et au fur et à mesure de la subduction, eh bien, les îles qui existaient déjà au niveau du Pacifique sont venues se coller à l'Antarctique. Et ceci a été à l'origine d'une immense chaîne de montagnes qu'on appelle l'orogène de Ross, que certains appellent également la Terra Australis, hein, la Terre australe. Et cette chaîne de montagnes, bien sûr, par la suite a été érodée, mais va représenter le substratum de ce qui donne maintenant les monts transantarctiques. Hein, ces monts transantarctiques qui coupent en écharpe tout l'Antarctique, ce sont, on va le voir, des sédiments et des laves qui sont posés sur ce vieux substratum qui a entre 500 et 300 millions d'années. Alors c'est un peu compliqué tout ça. L'Antarctique n'est pas simple. Alors c'est à cette époque que tout le secteur, au sens très large, a subi une très longue glaciation à cheval sur le Carbonifère et le Permien, que Wegener avait bien déjà reconstitué. Après cela vient une période qu'on appelle le Permo-Trias, la fin du Permien, le Trias, donc entre 300 et 200 millions d'années. Eh bien, à ce moment-là, la subduction du Pacifique se poursuit. Là, on retrouve une carte normale pour nous, avec l'Antarctique au sud, en dessous de la Terre de Feu. Et là, vous voyez toutes les îles du Pacifique qui commencent à se coller à l'Antarctique Est. Là, vous avez les monts transantarctiques. Et sur ces monts transantarctiques, sur le socle des Terra Australis qui se sont formés précédemment de la vieille chaîne de montagne qui entre-temps a été érodée, vont se déposer des grès sur la péneplaine de Ross. Et là, je vais quand même vous en montrer quelques exemples, que vous n'imaginiez pas que tout ceci n'est qu'une vision de l'esprit. Voici une photo absolument remarquable, c'est pour moi qui l'ai faite, donc je peux dire qu'elle est remarquable, qui vous montre une magnifique discordance, hein, même si vous n'êtes pas très familier avec la géologie. Je pense que vous voyez assez facilement que sous cette ligne, ce n'est pas tout à fait pareil qu'au-dessus. En dessous, vous avez de vieilles roches métamorphiques, hein, avec des plans de foliation globalement qui sont comme ceci. Donc ça, sont des roches qui ont été ultra déformées lors de la formation de la chaîne de montagne de Ross. Cette chaîne de montagne a été pénéplanée, tout ceci a été raboté, pénéplané. Et au-dessus, vous avez ici une pile de grès, qui sont des grès du Trias, avec une magnifique discordance. Ça, ce sont les sédiments gréseux qui se déposent sur les monts transantarctiques. Vient ensuite, après le Trias, vous avez le début du Jurassique. Et au Jurassique, il y a 180 millions d'années, s'est produit un événement majeur dans l'histoire de l'Antarctique, à savoir une énorme province volcanique qui s'est mise en place sur plus de 4000 km de long. C'est ce que l'on appelle la province volcanique du Karoo-Ferrar. Cette province volcanique, qui est très certainement liée à un panache mantellique, est venue mettre en place des empilements de lave, de coulées de lave, qui prennent en écharpe tout l'Antarctique, tout ce qui est en rouge ici, vous voyez, toutes les monts transantarctiques, mais également une partie de l'Australie et notamment de la Tasmanie, on a été moins en Tasmanie, et c'est cette province également qui s'est très largement répandue sur toute l'Afrique australe. Ça, c'est un coin que j'aime bien parce que j'ai pas mal travaillé, mais quand vous allez en Afrique du Sud, en Namibie, au Zimbabwe, au Botswana, en Zambie, eh bien, à l'époque, quasiment toute cette Afrique australe a été recouverte de coulées de lave, jusqu'à 8 km de coulées localement, quelque chose de phénoménal. Et à cette époque, évidemment, l'Afrique du Sud, l'Antarctique et l'Australie étaient encore joints en un seul continent. Hein, ce n'est qu'après que va commencer à se produire la dislocation du Gondwana. Donc, province volcanique géante de Ferrar pour ce qui est de la partie antarctique. Je vous en montre quelques photos parce que c'est trop beau. Des coulées. Voilà un exemple. Là, vous avez 500 mètres de coulées, de basalte, hein, qui sont empilées. On a pu dénombrer une quinzaine de coulées. Là, on n'est pas loin du point culminant des monts transantarctiques, Kirkpatrick, des dikes. Quand vous allez dans ce secteur de l'Antarctique, eh bien, le vieux socle est absolument criblé de dikes. Vous voyez, tous ces linéaments plus sombres, ce sont des dikes. Là également, vous avez des dikes qui partent un peu dans tous les sens. Ça, c'est ce qu'on appelle dans le jargon des géologues, la plomberie ou la tuyauterie. c'est-à-dire les voies de cheminement du magma qui va produire les coulées que je viens de vous montrer. Et puis il arrive de temps en temps que ces dikes, sans arriver, que le magma qui emprunte ces dikes sans arriver jusqu'à la surface, va suivre une discontinuité latérale pour former ce que l'on appelle un sill. Là, vous voyez, vous avez également des basaltes. C'est un sill qui s'injecte latéralement. Je vous en montre là un exemple qui est beaucoup plus beau. Ça, c'est absolument magnifique. Vous avez des sédiments, des grès dévoniens ici, des grès dévoniens qui sont complètement injectés de très beaux cils. Ça, c'est des cils qui sont très puissants, qui font, je ne connais pas leur épaisseur précise, mais c'est probablement quelques centaines de mètres. Et ces cils sont associés à des dikes. Là, vous avez un cil, des dikes. Donc, c'est quelque chose d'assez, d'assez spectaculaire. Donc, un événement volcanique majeur à ce moment-là. Vient ensuite la fin du Jurassique. Jurassique supérieur, il y a 150 millions d'années. Et à ce moment-là, eh bien, va commencer sérieusement la dislocation du Gondwana qui avait mis plusieurs centaines de millions d'années à se former. Donc ça, c'est le balai des plaques qui est une constante dans l'histoire de notre planète. Dans l'histoire de notre planète, à plusieurs reprises, on a eu des continents qui se sont regroupés, qui se sont dispersés, qui se sont regroupés de nouveau. Le dernier regroupement en date, c'est la formation de la Pangée qui a commencé à se disperser il y a 190 millions d'années, mais au niveau de l'Antarctique et du Sud, ça a été un petit peu plus tardif. Okay. Donc, si je regarde ce qui concerne plus précisément l'Antarctique, eh bien, on va assister à un éclatement du continent antarctique dans un sens horaire, en gros en sens inverse de l'ordre qui avait été utilisé pour amalgamer l'Antarctique. À savoir que vous allez avoir d'abord, il y a 150 millions d'années, une séparation du craton africain du craton antarctique, mais un petit morceau de l'Afrique reste collé à l'Antarctique, c'est ce que je vous disais. Ensuite, il y a 90 millions d'années, séparation du craton indien de l'Antarctique, mais là encore, un petit morceau va rester collé à l'Antarctique. Et puis, il y a 50 millions d'années, ce sera au tour de l'Australie de se séparer de l'Antarctique. Donc là, on assiste à la dislocation de l'Antarctique dans un sens horaire. Et c'est à ce moment-là également que commence à se former le rift ouest antarctique, dont je vous ai montré la belle structure d'effondrement lorsque j'ai décapé l'Atlas, vous montrant le bedrock sous l'Atlas. Okay. Et c'est également à ce moment-là que va se faire, conjointement à la dislocation du Gondwana, que va se faire l'accrétion de l'Atlantique ouest. Donc vous avez plusieurs phénomènes géologiques distincts qui vont se combiner. Au Crétacé inférieur, autour de 100 millions d'années, eh bien, le rift ouest antarctique il s'est largement ouvert. Il est là. Il est ici. Là encore, c'est l'Antarctique à l'envers, vu par les Australiens. Le maximum d'extension de ce rift se produit autour de 100 millions d'années. C'est à ce moment-là, il y a 100 millions d'années, que la péninsule antarctique, cette péninsule que l'on visite quand on a la chance de faire une croisière là-bas, eh bien, c'est à ce moment-là, il y a 100 millions d'années seulement, si on peut dire, qu'elle s'est collée à l'Antarctique. Avant, c'était des îles qui étaient au milieu du Pacifique. Et c'est à ce moment-là que l'Inde va commencer à se séparer. Là, vous voyez, vous avez un rift continental et puis un domaine océanique qui va s'installer entre l'Antarctique et l'Inde. Alors, le rift ouest antarctique que je vous ai déjà montré, ben, le revoici. C'est cette grande structure que vous avez ici entre les montants d'Antarctique et puis des reliefs que l'on a davantage à l'ouest. À cette époque, l'Antarctique était bien éloigné de ce que l'on connaît actuellement. C'était on avait un climat, on était plutôt en zone tropicale, on avait des forêts et on a un certain nombre de fossiles qui témoignent bien sûr de ce climat très éloigné de ce que l'on connaît actuellement. Au début du tertiaire, maintenant il y a 50 millions d'années, et bien ça va être au tour de l'Australie à se séparer de l'Antarctique en en laissant un petit morceau collé. Et là vous allez avoir et bien cette dorsale océanique qui commence à progresser. À progresser du nord vers le sud. Et puis, peu après l'Australie, ça va être la Nouvelle-Zélande qui, à son tour, va se séparer de l'Antarctique. Et c'est à ce moment-là que les monts transantarctiques héritage de la chaîne de montagnes de Ross et puis de tout ce qui s'est posé par-dessus, vont subir une surexion. C'est la raison pour laquelle, actuellement, eh bien, ça dépasse encore la calotte glaciaire. Surexion des monts transantarctiques, c'est important. Et dernière étape importante en ce qui nous concerne, parce qu'ensuite, on ne verra plus grand-chose, tout est couvert par la glace, et puis la cinématique de l'Antarctique va réduire considérablement, c'est à ce moment-là que commence à s'ouvrir le passage de Drake entre la Terre de Feu, que vous avez ici, les Malouines, les Falklands ici, et la péninsule antarctique que vous avez là. Quand vous regardez les anomalies magnétiques de cet océan, vous voyez que les plus vieilles anomalies magnétiques, vous les avez de façon symétrique de part et d'autre, en violet ici. C'est la crône des paléomagnéticiens numéro 11 et la croûte océanique de cet âge a été datée à 30 millions d'années. C'est le témoin le plus ancien de l'ouverture de cette mer entre l'Amérique du Sud et l'Antarctique. Et ça, c'est ce qui va entraîner l'isolement définitif, depuis ça n'aura pas changé, de l'Antarctique. Rappelez-vous, l'Antarctique, hein, il est entouré de dorsales, la mer de Scotia au nord, il est complètement isolé et isolé au pôle sud. C'est pour ça qu'il va progressivement s'englacer. Voilà, on a reconstitué au pas de course à peu près 2 milliards d'années d'histoire de, de l'Antarctique. Je vais un petit peu vite, hein, je m'en excuse parce que je ne vous l'ai pas dit, mais il faut qu'on ait vidé la salle à 8h30. Hein, donc, je voudrais vous laisser un petit peu de temps aux questions. Alors, quelques volcans antarctiques. Alors, il y a des volcans qui sont connus, qui sont célèbres, qui affleurent bien, et puis il y a des volcans cachés. Pour ce qui est de ces volcans antarctiques, vous en avez par exemple toute une série qui sont situés à l'ouest du rift ouest antarctique. Ceux-là, ils sont sous la glace, mais ils ont été mis en évidence par des techniques aéroportées. Je vais vous en parler dans un instant. Mais je vais commencer par vous présenter un petit peu les volcans visibles et ceux que vous avez la chance de voir si vous faites une croisière en Antarctique au niveau de la péninsule antarctique, à savoir les Shetland du Sud. Les Shetland du Sud, ce sont les îles qui sont séparées, la péninsule de l'Antarctique, elle est là. Et puis, ici, vous avez toute une série d'îles qui sont les Shetland du Sud. Ces Shetland du Sud sont des volcans qui sont liés à une ancienne subduction, qui maintenant n'est plus guère active, hein, une ancienne subduction de cette plaque-ci, qui était encore une microplaque, qui subductait sous la plaque antarctique. Donc ceci a créé tout un arc volcanique très jeune. Les reliefs que vous voyez ici, très pointus, en témoignent. Et puis, vous avez un autre volcan qui est un incontournable de toute croisière en Antarctique, qui est l'île Déception. Et l'île Déception, elle, contrairement à ce qu'on pourrait penser, n'est pas du tout un volcan de subduction. C'est un volcan qui est situé au-delà des Shetland. Les Shetland sont ici. Si je fais un zoom ici, vous avez les Shetland du Sud. Et l'île Déception est située dans ce qu'on appelle un bassin en arrière de l'arc, ça c'est l'arc volcanique lié à cette subduction du nord vers le sud, et en arrière de l'arc vous avez de l'extension, ça c'est très classique, quand vous avez une zone de subduction, en arrière de la zone de subduction vous avez de l'extension, c'est ce qui se passe actuellement dans la mer Tyrrhénienne en arrière de l'arc éolien par exemple, et bien c'est également ce qui continue à se passer au niveau de l'île de Déception qui possède une très belle caldeira. C'est un très beau volcan arrière-arc dans lequel vous pouvez naviguer en voilier et ou que les bateaux de croisière peuvent aborder également. En voici un exemple. Ça, c'est une des photos que j'ai pu faire là-bas. Voici le rebord de la caldeira. Cette caldeira, elle a à peu près 10 000 ans. Hein, elle n'est pas d'aujourd'hui. Mais cette île Déception est encore active. Et là, je vous montre un cône strombolien qui témoigne de la dernière éruption en date de ce volcan, 1969-70, c'était hier, hein, géologiquement parlant. Donc là, on a toujours affaire à du volcanisme actif, même si on n'en parle pas tous les jours. Un autre exemple d'un volcan beaucoup plus ancien, là, c'est un des premiers que l'on aborde quand on vient de la Géorgie ou de la Terre de Feu, quand on aborde la péninsule antarctique, c'est Brown Bluff. Et ça, c'est un volcan plus ancien qui est un volcan sous-glaciaire. sous glaciaire, c'est un volcan basaltique qui s'est mis en place sous la calotte glaciaire, qui depuis à ce niveau a disparu. Et la lave a interagi avec la glace, ce qui entraîne un dynamisme explosif qui va former ce que l'on appelle des hyaloclastites, c'est-à-dire que la lave basaltique est fragmentée. Ça donne des fragments de verre volcanique qui, restant en contact avec la glace qui la surmonte, va s'altérer progressivement en argile, d'où la teinte jaunâtre que vous voyez apparaître ici, plus quelques lichens évidemment qui peuvent se mettre en place. Et tout ceci va former ce que l'on appelle de la palagonite. Si vous voulez voir une très belle palagonite, vous n'êtes pas obligé d'aller jusqu'en Antarctique. Il suffit d'aller dans le bassin du Puy, à 1h30 de Lyon à peine, et vous pouvez voir de très belles palagonites. Ça crée peut-être moins d'émotion qu'en Antarctique, mais elle est aussi belle. Et c'est un matériau de construction excellent dans lequel toutes les églises romanes de la région ont été bâties. Maintenant, je vous présente le volcan le plus méridional de la planète, qui a été découvert dans les années 30, oui, en 1934, Mount Early, voilà ce volcan. Et puis, je vous présente évidemment l'incontournable, nec plus ultra, le mont Erebus, près de 4000 mètres. Ce n'est pas le point culminant de l'Antarctique. Le point culminant de l'Antarctique, c'est le mont Vinson, qui est au niveau de la chaîne de montagnes Ellsworth, qui prolonge les monts transantarctiques. Bon, mais l'Erebus, c'est quand même un très beau volcan qui a commencé, on ne connaît pas dans le détail son histoire, vous vous en doutez, mais les âges les plus anciens que l'on connaît sont de 1 300 000 ans. On a de bonnes raisons de penser que l'Erebus est un point chaud. Un point chaud comme la Réunion, comme Hawaï, parce qu'on est en plein cœur d'une plaque, on est en plein cœur de la plaque atlantique. Et l'Erebus n'est pas situé directement sur le continent antarctique, il est situé sur l'île de Ross. L'île de Ross, c'est une petite île qui est située dans la mer de Ross, donc au sud. Donc un point chaud, et puis là je vais vous montrer quelques vues de ce superbe volcan. Pris ici depuis la base américaine de McMurdo, au pied de l'Erebus. Là, vous avez une autre vision de l'Erebus qui fume. Ce n'est pas un nuage, vous avez une activité fumerolienne qui perdure. Dans l'histoire de l'Erebus, il y a un jalon important qui remonte à... Alors, on ne sait pas exactement à quand, mais ça a été daté à 18 000 ans avec une marge d'erreur assez considérable, qui est la formation de cette très belle caldeira. Donc il y a eu un événement explosif important. L'Erebus, c'est ce qu'on appelle un stratovolcan, avec une histoire très complexe, c'est allé sur plus d'un million d'années. Et vous avez une immense caldeira qui s'est formée, au sein de laquelle se sont mis en place les deux systèmes de cratères encore actifs actuellement, comme vous pouvez le constater. Et voici ici une vision des deux cratères sommitaux, avec en arrière-plan un autre volcan qui lui est éteint, c'est le mont Terror Mount, qui est éteint. Et ce qui est remarquable, c'est que dans l'un de ces cratères, celui-ci, vous avez un lac de lave permanent, qui est l'un des très rares lacs de lave que l'on connaît sur la planète. Voici là le rebord, le lac de lave est ici au fond. Mais ce lac de lave, il est unique, en voici des vues, il est unique sur la planète car... À la différence de tous les lacs de lave connus par ailleurs, il n'y en a pas beaucoup, il y en a deux ou trois, qui sont tous basaltiques, lui est constitué, pour ceux qui sont un peu géologues, de phonolite. C'est-à-dire d'une lave qui, a priori, est beaucoup plus visqueuse, qui ne se prête pas trop à former des lacs de lave. Et pourtant, on a un lac de lave phonolitique. Et maintenant, je vais vous montrer quelques particularités, quelques curiosités de ce volcan. Il ne fait pas très chaud, donc vous avez une activité fumerolienne. Mais une activité fumerolienne, lorsque le climat est très froid, cela va former des stalactites de glace qui, au gré des dégagements, s'agèlent tout de suite. Et ça peut former des figures qui sont très spectaculaires. Vous avez, ça c'est une chance extraordinaire, c'est que ce volcan va remonter des enclaves de manteaux, de péridotites. Donc même si on n'a aucune chance de voir le manteau qui est sous l'Antarctique, on le connaît grâce à ses enclaves. Et puis, autre particularité du lac de lave de l'Erebus, c'est qu'en surface de ce lac de lave, on observe des flottations de cristaux de feldspath qui peuvent être géants, 10 cm, qui sont plus légers que la lave, donc ils vont flotter en surface. Et si on a que ça intéresse, j'ai ramené ici un exemple d'un de ces cristaux qui flottait sur le lac de lave. Alors, c'est un collègue qui me l'a donné, j'y suis jamais allé malheureusement. Il y a très peu de temps, ça a été publié en août 2017, a été découvert, là je laisse l'Erebus, il est là, l'île de Ross c'est ici, a été découvert ici par études aéroportées sous ce secteur, ce qui est probablement une province volcanique considérable, avec toute une série de volcans. On a découvert quasiment une centaine de volcans, avec des degrés d'incertitude qui sont variables, parce que pour en être sûr, il va falloir attendre que ça fonde, si ça veut bien fondre complètement. Mais tous les critères morphologiques laissent penser qu'il s'agit bien de volcans, donc une province volcanique dont on ne connaît pas véritablement l'âge. On a encore plein d'inconnus, d'incertitudes pour l'Atlantique, pour l'Antarctique. Et pour terminer, je vais évoquer un petit peu les ressources minières de l'Antarctique et les enjeux. C'est bon, on aura du temps pour les questions. Je suis allé un petit peu pas de course. Je crois que j'ai jamais fait de si vite celle-ci. Quelques mots sur les ressources minières. Bon, mais là, je vais prendre mon temps. Alors, il faut savoir que le statut de l'Antarctique, vous le savez, je suppose, est très particulier. En Antarctique, vous avez un traité international de l'Antarctique depuis 1959. Qui a été signé par 12 pays. Sur ces 12 pays, il y en a 7 qui, au préalable, avant qu'il n'y ait la moindre législation concernant l'Antarctique, s'étaient attribués des tranches de camembert que je vous montre ici. Ces 7 pays, ben, vous les avez. Vous avez l'Argentine, l'Angleterre, la Norvège, l'Australie, la France, la Nouvelle-Zélande et le Chili. Et puis, vous avez 5 autres pays qui se sont joints à ces 7 premiers pour arriver à 12 et qui ont signé le traité de l'Antarctique en 1959. Ces tranches de camembert, ces revendications ont un statut qui est un peu ambigu. Un peu ambigu parce que quand vous regardez bien les termes du traité de l'Antarctique, on n'empêche pas ces pays, le traité n'empêche pas ces pays d'avoir revendiqué et de continuer à revendiquer ses possessions. Mais, et c'est là que c'est d'une hypocrisie totale, ils n'ont pas le droit d'en faire état. Oui, c'est... c'est assez extraordinaire. Et puis les choses sont un petit peu compliquées parce que pour certaines de ces tranches, vous voyez que vous avez des secteurs qui ont été revendiqués par plusieurs pays. Notamment cette tranche-là avec la péninsule antarctique, revendiquée à la fois par l'Angleterre et l'Argentine. Tiens, tiens, les Malouines sont pas loin. Et puis vous avez un secteur qui n'a jamais été revendiqué par personne. Vous pouvez constater que parmi ces revendications, anciennes bien sûr, ne figurent ni les États-Unis, ni la Russie, ni la Chine. Après 1959, il y a eu dans les années en 88, tous les pays signataires se sont réunis pour édicter ce qui devait être la convention de Wellington. Donc, ils s'étaient réunis en Nouvelle-Zélande. La convention de Wellington avait pour objectif de mettre une entorse, en quelque sorte, au traité de l'Antarctique, en ménageant la possibilité d'exploiter certains secteurs économiquement intéressants. Ça, c'était ouvrir la boîte de Pandore, hein, vous l'avez compris. Heureusement, à cette époque, c'était en 88, l'Australie s'y est opposée, pour des raisons qui ne tenaient peut-être pas qu'à l'Antarctique. L'Australie avait peut-être tout intérêt à préserver ses propres ressources qui n'étaient pas si loin. Et s'y est également posée la France. À l'époque, le responsable, si je puis dire, politiquement parlant, de ces terres australes, c'était Michel Rocard, qui avait probablement un peu plus d'envergure que n'en a eu... trois points de suspension, et qui, lui, a œuvré de façon extrêmement efficace avec l'Australie pour bloquer cette convention de Wellington qui n'a jamais été signée. Donc là, on a sauvé les meubles. Ce traité de l'Antarctique il stipule bien sûr que l'Antarctique est une terre dédiée à la paix, à la science et à la préservation de l'environnement, avec interdiction absolue d'exploiter quoi que ce soit et d'y implanter une quelconque base militaire, évidemment. Ce traité de l'Atlantique, pas de l'Atlantique, de l'Antarctique, traité de l'Atlantique, c'est autre chose, a été complété par ce qu'on appelait le protocole de Madrid, qui a été signé en 1991 et qui est entré en vigueur en 1998. Ce protocole de Madrid a renforcé la protection environnementale pour l'ensemble de l'Atlantique et également pour toutes les zones marines environnantes en dessous du 60e degré sud. Ce protocole, il est accompagné, il a été signé par une cinquantaine de pays, je crois, hein, je n'ai plus le nom en tête, donc un très large consensus international, et il est assorti d'un moratoire pour 50 ans, 1998 plus 50 ans, cela veut dire que jusqu'en 2048, on est tranquille. Alors, on a souvent tendance à dire, moi le premier, hein, jusqu'à il y a très peu de temps, qu'après 2048, il y avait vraiment du souci à se faire. En fait, je suis allé regarder d'un petit peu plus près les termes du protocole de Madrid. Les législateurs se sont quand même entourés d'un certain nombre de précautions qui font qu'après 2048, du moins sur le papier, il sera très difficile de revenir en arrière parce qu'il est stipulé que pour modifier une quelconque clause de ce protocole, il faudra la majorité absolue des pays signataires et des pays dont j'ai oublié le terme, mais il y en a une trentaine comme ceci, qui ont acquis un droit de vote. Et qui ont acquis un droit de vote parce qu'ils ont fait preuve depuis des décennies de leur savoir-faire et de leur bonne volonté en termes de recherche scientifique. Donc il faudrait, pour qu'une clause de ce traité, de ce protocole de Madrid, soit remise en question, qu'il y ait un consensus, vote à l'unanimité, d'une trentaine de pays. Ce qui est quand même une garantie assez sérieuse quand on voit que le traité de Wellington n'a jamais vu le jour parce que l'Australie et la France s'y sont opposées. On peut quand même avoir, même s'il y a un certain flou juridique, on peut être relativement optimiste, du moins sur le papier. Ensuite, que feront certains États du protocole de Madrid ? Ça, c'est une autre question. Voilà, ça, c'était le petit couplet juridique. Hein, c'est important d'avoir en tête. Alors, quels sont, pour autant qu'on le sache actuellement, les potentiels économiques éventuels de l'Antarctique ? On a parlé depuis longtemps du potentiel en charbon. Depuis longtemps, parce que déjà en 1907, Shackleton avait découvert des gisements de charbon dans les monts transantarctiques. Donc ça, c'est connu depuis très longtemps. Il s'avère que c'est un charbon de qualité médiocre. On a retrouvé plus récemment du charbon de meilleure qualité ici, mais il y a relativement peu d'inquiétude à avoir sur le fait qu'on aille un jour exploiter du charbon en Antarctique. Que peut-on dire des ressources minières en Antarctique ? Alors, officiellement, on ne sait pas grand-chose. Ce que l'on sait, par contre, et ça, c'est très important, c'est que, et ça je vous l'ai montré, que l'Antarctique, la partie est de l'Antarctique, pas ouest, mais la partie est, c'est le collage de toute une série de vieux cratons venant d'Australie, venant d'Inde et venant d'Afrique du Sud. Autant de cratons dans lesquels on connaît très bien, pour les avoir exploités, pour continuer à exploiter, des gisements de diamants, d'or, de cuivre, d'uranium, de platine, de tout ce que vous voulez. Donc à partir du moment où une bonne partie de l'Antarctique, toute cette partie est, fait partie du même ensemble gondwanien, il est évident, géologiquement parlant, que des gisements importants existent dans l'est de l'Antarctique. Ça, c'est assez clair. Qu'en est-il des hydrocarbures ? Les hydrocarbures, il y en a. Il y en a, les campagnes de forage en mer de Ross et en mer de Weddell ont décelé des indices d'hydrocarbures. Les hydrocarbures, vous le savez, sont le pétrole notamment, est largement exploité sur les marges de l'Afrique, de l'Amérique du Sud, sur les marges australiennes, tout ce secteur, tout ça, ce sont des zones où le pétrole est exploité. Donc il est clair qu'en offshore de l'Antarctique, il y a des gisements de pétrole. Ceci étant, ces gisements de pétrole, on a beaucoup parlé du complexe d'Eldorado à propos de ces gisements. On a essayé de faire des estimations. Certains pensent qu'il y aurait à peu près 200 milliards de barils sous l'Antarctique. La production mondiale en 2017, c'était 35 milliards de barils, donc 200 milliards, ce n'est pas négligeable. Mais là encore, je pense que ce n'est pas demain la veille qu'on ira exploiter du pétrole en Antarctique, car les estimations du coût d'exploitation est de l'ordre de 100 dollars le baril. Je ne sais pas où en est le baril actuellement, mais il doit être autour de 50, 60 dollars, un truc comme ça. Ça veut dire que le simple coût d'exploitation serait deux fois supérieur au prix de vente du baril. Donc là encore, il y a relativement peu de chances que le pétrole soit exploité un jour, et ce qui a fait dire à un géologue de l'Université d'Aberdeen ceci, hein. Il y a peu de chances que l'on n'exploite jamais du pétrole. Et là, je vous ai mis quand même, compte tenu des quelques indications que l'on peut avoir, des gisements potentiels en différents éléments. Hein. Vous avez le chrome, le nickel, le cobalt, le cuivre, l'or, l'argent. Oui, rien qu'en péninsule ibérique, il y a des gisements qui pourraient être intéressants, qui évidemment pour l'instant ne sont pas exploités. Et tant que le protocole de Madrid restera appliqué, rien ne sera exploité en Antarctique. Et découverte récente de quelques années, à ce niveau-là de l'Antarctique, on a découvert des kimberlites. Alors les kimberlites, pour ceux à qui ça ne parle pas, ce sont des brèches volcaniques qui remontent très rapidement des profondeurs du manteau. Quand je dis des profondeurs du manteau, c'est plus de 100 km, hein, ce n'est pas à 3 000 km, mais à quelques centaines de kilomètres. Et à partir du moment où ces morceaux de manteau remontent suffisamment rapidement vers la surface, si ces morceaux de manteau sont suffisamment riches en carbone, ça veut dire qu'ils peuvent contenir des diamants. Et tous les gisements de diamants à l'origine sont directement associés au kimberlite. Donc là, on ne sait pas, enfin, en tout cas moi je n'en sais rien, certains le savent peut-être, je ne sais pas si actuellement si ces kimberlites sont diamantifères ou non. Toutes les kimberlites ne sont pas diamantifères, mais quand vous regardez les différents gisements de kimberlite que l'on connaît, notamment en Amérique du Sud et en Afrique du Sud, ben vous voyez que ce morceau du craton était évidemment jointif de ce que l'on avait dans les autres secteurs du Gondwana. Donc ça peut être évidemment une ressource potentielle. Et sur ce, eh bien, je vous remercie de votre attention.